Merci d'écouter Radio Okapi. C'est l'heure de vous informer.
Radio Okapi.
Le journal Blaise Jordan Chindani Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée dont voici d'abord les titres. RDC au Conseil de sécurité, 632 civils tués, alerte sur Ebola. James Swan dénonce une situation sécuritaire et sanitaire alarmante au Nord Kivu et en Ituri. Nord Kivu, combat persistant malgré l'accord de Washington. Un an après la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, la situation reste inchangée sur le terrain. L'invité de ce journal est le coordonnateur de 14 centres disséminés dans la ville de Lubumbashi et Kipushi, qui encadre des centaines de jeunes en rupture familiale. Dans son entretien à Radio Okapi, le père Eric Mirt explique comment ces maisons prennent en charge ces enfants et révèle les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'encadrement des enfants. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Situation de la République démocratique du Congo au cœur de la 10185e séance du Conseil de sécurité sur un bilan alarmant. Le représentant spécial du secrétaire général et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, James Swan, a alerté sur la situation sécuritaire alarmante. Il a avancé les bilans des 632 civils tués au Nord Kivu et en Ituri depuis le 19 mars de cette année. Une conséquence de la persistance de combats dans cette partie de la RDC, a-t-il souligné. Et cela, il faut ajouter la montée des cas de malades à virus Ebola en Ituri et aux environs qui vient encore une fois fragiliser une population déjà amortie par la guerre, a-t-il signifié. Écoutez à ce sujet le bilan de cette situation peu élogieuse de la République démocratique du Congo tracé par le chef de la MONUSCO au Conseil de sécurité, James Swan.
La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo demeure complexe, volatile et dévastatrice pour les populations. Des combats intenses se sont poursuivis entre l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, soutenu par les forces de défense rwandaises, et avec les forces armées de la République démocratique du Congo, les Wazalendo et dans certaines localités, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Les principales zones de conflit de ces récents affrontements ont été 1. Rubaya, au Nord Kivu, un important centre minier. 2. Les environs de Rutshuru, où des combats ont opposé l'AFC M23 aux FDLR et à leurs alliés. Et 3. Les hauts plateaux du Sud Kivu, où les FRDC et leurs alliés affrontent l'AFC M23 et ses alliés. Les affrontements dans ces zones ont continué d'impliquer l'emploi des drones offensifs et d'armements lourds, qui ont gravement intensifié les risques sur les civils ainsi que sur les infrastructures. Conformément à leurs engagements, l'AFC M23 s'est partiellement retiré de certaines localités des territoires de Lubero et de Walikale, ainsi que de certaines zones du sud Kivu, notamment d'une partie de la plaine de la Rusizi dans le territoire d'Uvira. Le groupe poursuit néanmoins la consolidation de structures administratives parallèles dans les zones sous son contrôle.
La situation humanitaire dans l'Est de la RDC s'est invitée ce vendredi au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Pour les représentants du groupe A3, comprenant le Libéria, la Somalie et la RDC, il est temps que les attaques comprenant les populations et les infrastructures civiles cessent. Il plaide également pour le respect des droits humanitaires. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Jean Ganduka Bongo.
Ce sont les civils qui paient le prix fort de la violence armée, des déplacements et de la peur. La recrudescence du nombre de victimes civiles ne se résume pas à une question de statistiques, non. C'est en fin de compte une idée de la souffrance humaine qui nous rappelle qu'il est urgemment nécessaire que le Conseil honore ses responsabilités, prenne des mesures pour préserver la vie, restaurer la sécurité et promouvoir une paix durable. Nous condamnons le plus fermement qui soit les violences perpétrées par des groupes armés, notamment par les AFC et les M23. Les forces démocratiques alliées, le CODECO, la Convention pour la Révolution Populaire et les FDLR. Leurs attaques ciblant des civils, les recrutements forcés, les exécutions sommaires, les enlèvements et les autres violations graves sont inacceptables et doivent dès lors cesser sans plus attendre. Nous appelons toutes les parties à respecter pleinement le droit international humanitaire, y compris les principes de distinction, de précaution et de proportionnalité. Et nous les appelons à prendre toutes les mesures possibles et imaginables pour protéger les civils et les infrastructures civiles.
Au Nord Kivu, la situation reste inchangée sur le terrain d'affrontement opposant l'armée congolaise au mouvement rebelle AFC M23. Un an après la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, également connu sous le nom d'accord de Washington, ce texte signé le 27 juin 2025 visait à mettre fin au conflit entre les deux pays. Les détails avec vous, Jean Gandou Kabongo.
Les termes de cet accord prévoyaient notamment le retrait des troupes rwandaises de l'est de la RDC dans un délai de 90 jours après sa signature, ainsi que la fin du soutien de Kinshasa aux combattants des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Cependant, dans un communiqué publié le 25 juin, les États-Unis ont une fois de plus demandé le retrait total des forces rwandaises de l'est de la RDC sans plus tarder, à la veille du premier anniversaire d'un accord resté largement inappliqué. Sur le terrain, les affrontements se poursuivent et continuent d'endeuiller des populations civiles. Les territoires des Masisi, Rutshuru et Walikale au nord Kivu, ainsi que ceux d'Uvira, Fizi et Mwenga au sud Kivu, sont particulièrement touchés. Des milliers de personnes sont déracinées de leur village, tandis que d'importants dégâts matériels sont régulièrement enregistrés. Les belligérants recourent de plus en plus à l'artillerie lourde et à des attaques par drone. Sur le plan économique, certains sites stratégiques comme celui d'exploitation des coltans de Rubaya reste sous le contrôle des rebelles de l'AFC M23, toujours accusés d'être soutenus par le Rwanda. Ces derniers ont également mis en place une administration parallèle dans certaines zones sous leur occupation dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Pour rappel, cet accord signé à Washington faisait suite à des négociations entre le Rwanda et la RDC menée sous la médiation des États-Unis et du Qatar. Le principal groupe rebelle, l'AFC M23, étant absent, continue parallèlement les discussions avec le gouvernement congolais à Doha.
Merci beaucoup Jean Gandou ou Kabongo. Notons que ce samedi 27 juin 2026, cela fait exactement une année depuis que la RDC et le Rwanda avaient signé l'accord de paix à Washington. Les représentants de ces deux pays ainsi que des États-Unis, du Qatar, de la République du Togo et de la Commission de l'Union africaine se sont réunis jeudi 25 juin à Londres pour la 6e réunion du comité conjoint de suivi de l'accord de paix conclu le 27 juin 2025. Faisant le point sur l'évolution de la situation, depuis la dernière réunion, le comité conjoint de suivi a exprimé sa vive préoccupation face à l'escalade de combats, à l'impact des frappes de drones sur les civils et les processus de paix, ainsi qu'à l'aggravation de la situation humanitaire dans l'est de la RDC, y compris l'épidémie d'Ebola en cours. Dans un communiqué publié sur le site de l'Union africaine, le comité conjoint de suivi a convenu de la nécessité urgente des mesures visant à rendre le cessez-le-feu effectif. Les points dans ces condensés d'Alain Irung rendu par Donamadi Mbambaya.
Selon ce communiqué, la RDC et le Rwanda se sont engagés à mettre pleinement en œuvre l'accord de paix signé le 27 juin 2025, y compris en ce qui concerne les frappes de drones, réduire immédiatement les tensions, en particulier autour de Minembwe, et user de leur influence respective auprès de toutes les parties sur le terrain pour atteindre cet objectif, solliciter un ajustement du mandat de l'EJVM+, afin d'y inclure la vérification des engagements pris dans le cadre des accords de Washington, soutenir le déploiement rapide de l'EJVM+, pour lui permettre d'effectuer sa première mission de vérification tout en exhortant tous les acteurs présents sur le terrain à appuyer cette initiative, créer des conditions politiques et sécuritaires propices au processus de vérification conjointe, apporter un soutien total à la conclusion fructueuse des négociations en cours entre la RDC et l'AFM23 dans le cadre du processus de Doha, renforcer la confiance notamment en s'abstenant de tout acte ou de toute rhétorique hostile, en particulier d'attaques politiques ou de propos susceptibles de compromettre ou de compliquer la mise en œuvre intégrale des accords de Washington, y compris dans les enceintes internationales.
Concernant toujours cette signature, plusieurs personnes indiquent qu'il n'y a toujours pas de grandes avancées. Les bruits des bottes sont entendus dans de nombreuses zones du nord et du sud Kivu. Elle en appelle à l'intensification des pressions de la part des parrains de ces accords pour que la paix soit enfin une réalité pour ceux qui vivent dans cette partie de la République. Suivez.
Cet accord est important. Ces attentes qu'on trouvait tant dans une certaine lenteur. Mais pourtant, le travail se fait. Cet accord a une portée à la fois diplomatique et militaire. Mais la portée diplomatique domine. Et tout le monde pensera qu'il n'y a rien qui s'est fait. Mais sur le plan diplomatique déjà, il y a plusieurs sanctions qui fragilisent aujourd'hui le Rwanda. Plusieurs autorités, l'armée rwandaise, plusieurs personnalités du M23, même certaines personnalités de FDLR, sont frappés, c'est grâce à l'accord de Washington.
Le bilan de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda reste mitigé, pourtant salué comme une étape importante vers la désescalade. Jusqu'aujourd'hui, les combats se poursuivent et la crise humanitaire continue à se détériorer dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Même si cet accord contenait déjà des failles et semblait traiter plus les questions de la RDC et le Rwanda, sans inclure la donne des Congolais qui sont dans le mouvement AFC M23, on ne voit pas la bonne foi des partis s'exécuter.
Le calme revient progressivement dans plusieurs localités du territoire de Djougou en Ituri. Les populations renouent peu à peu avec leurs activités, même si de nombreux déplacés hésitent encore à rentrer chez eux. Quant aux raisons de cette accalmie, les avis divergent parmi les acteurs locaux. Certains attribuent au cessez-le-feu de la rébellion CRP, tandis que d'autres y voient les effets du changement à la tête de la province. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Depuis près de deux semaines, plusieurs localités des secteurs de Walendoutati, Piti et Chefferie de Bama Nord connaissent une accalmie inhabituelle après plusieurs mois d'insécurité. Conséquence immédiate, la circulation reprend progressivement sur plusieurs axes routiers, notamment entre Largou, Blukwa, Tché, Saliboko et Katoto. Agriculteurs, commerçants et habitants fréquentent de nouveau les champs et les marchés, renouent ainsi avec les échanges entre communautés autrefois interrompues par les affrontements. Charité, Banza et acteurs de la société civile dans la zone.
Il y a une circulation qui jadis n'existait pas. Les gens entrent aussi dans la brousse pour cultiver. Les gens aussi fréquentent des marchés. Il y a ceux de Bayama Nord qui vont au marché à Walendoutati, par exemple à Zuda. Il y a ceux de Bayama Nord qui fréquentent aussi sa paix de Walendoutati pour le marché de Masumbuko.
Toutefois, à Boulé, dans le même territoire de Djougou, de nombreuses familles déplacées hésitent encore à regagner leur village. Un responsable religieux ayant requis l'anonymat explique que cette prudence par le climat de méfiance qui persiste entre certaines communautés et les militaires des FARDC, après plusieurs affrontements contre les combattants de la CRP où des civils étaient parfois assimilés à des combattants. Pour lui, le retour durable de la paix passera aussi par la restauration de la confiance entre les populations et les forces de défense. Mounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Capi.
Dans la province du Maniema, le cas d'incursion d'hommes armés ne cesse d'augmenter. Dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 juin, plusieurs maisons du quartier Basoko, bloc RVA, ont été la cible de ces individus. Les victimes ont été dépouillées de presque tous leurs biens, en plus d'être profondément traumatisées. Sans être inquiétés, ces hommes, non encore identifiés, ont opéré en toute quiétude. Une situation qui plonge la population dans la peur et le désarroi. Florence Kizalunga.
Au quartier Basoko, dans le bloc RVA, c'est la psychose. Hormis quelques habitations situées sur l'avenue Luembe, plus de 5 maisons ont été visitées par ces malfaiteurs armés. Une fois à l'intérieur, le mode opératoire reste le même. Intimidation, violence et fouilles systématiques. Certaines victimes ont été frappées à coups de machette, contraintes de remettre de l'argent et de céder leurs biens de valeur. Selon le témoignage recueilli sur place, ces actes ont débuté aux environs de minuit. Parmi les victimes, une personne a été grièvement blessée, atteinte à la machette au niveau de la cheville et de la main. Malgré les cris de détresse, aucun secours n'est intervenu, affirment les habitants qui dénoncent un sentiment d'abandon. Aujourd'hui, la peur gagne tous les quartiers voisins, chacun redoutant d'être la prochaine cible. Cette situation intervient quelques jours seulement après la présentation des 13 présumés bandits armés au vice-gouverneur. Mais au sein de la population, le scepticisme persiste. Beaucoup dénoncent le fait que certains criminels, une fois arrêtés, ne restent que peu de temps en détention avant de se retrouver en liberté. Les habitants réclament des mesures plus fermes, notamment les transferts des criminels vers des prisons plus sécurisées dans d'autres provinces, comme l'avait annoncé le gouverneur Moïse Moussa Kabankoubi. En attendant, l'insécurité continue de régner et les habitants vivent désormais dans la crainte quotidienne de nouvelles attaques. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Et puis le gouverneur intérimaire du Congo, Fidel Kaoumba, a officiellement déclaré le jeudi 25 juin l'épidémie de choléra dans la zone de santé de Popokabaka après la confirmation de plusieurs cas positifs par l'Institut national de recherche biomédicale INRB. Cette décision fait suite aux alertes sanitaires enregistrées depuis le 24 mai dernier dans ce territoire. Selon les autorités provinciales, 136 cas ont déjà été recensés, dont 10 décès. Le gouvernement provincial rassure par ailleurs que toutes les dispositions nécessaires sont en cours pour contenir la propagation de la maladie et protéger la santé des habitants de Kwango. Plus d'explications dans ce reportage d'Alain Irungu-Moshinge, rendu par Gloriane Lepea.
Dans un message diffusé sur la radio-télévision nationale, les gouverneurs intérimaires du Kwango affirment qu'au total, 11 échantillons ont été envoyés au laboratoire national des références à Kinshasa pour analyse. Les résultats ont confirmé 3 cas positifs de choléra, un nombre suffisant pour déclarer officiellement une épidémie conformément aux normes sanitaires en vigueur. Dès la notification de premiers cas suspects, une équipe médicale a été déployée sur les terrains afin de renforcer la surveillance épidémiologique, démener des investigations et d'assurer la prise en charge de malades aux côtés des services sanitaires locaux, indique le gouvernement provincial. Face à cette situation, Fidel Kaoumba appelle la population au calme et au respect strict de mesures de prévention. Il recommande notamment les lavages réguliers de mains à l'eau propre et au savon, la consommation d'eau potable ou traitée, l'utilisation systématique des latrines, les maintiens de la propreté de l'environnement ainsi que la bonne cuisson des aliments avant leur consommation.
Santé encore au Kasaï oriental, 60 médecins venus de Mbujimayi, mais aussi des provinces du Haut-Lomami, Sankuru et Lomami, ont entamé depuis lundi une formation intensive de 2 mois en échographie gynécologique et obstétricale. Cette session pilotée par l'Université officielle de Mbujimayi, UOM, en partenariat avec 4 autres universités de la RDC, vise à renforcer les compétences des praticiens dans l'analyse et l'interprétation des images échographiques. Selon le professeur Célestin Kadima, chef du département de gynécologie obstétrique à l'UOM, l'objectif est clair, mieux outiller les médecins pour prévenir les complications liées à la santé maternelle et infantile grâce à une maîtrise accrue de l'échographie, un outil devenu indispensable dans le suivi des grossesses. Professeur Célestin Kadima s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
L'échographie est un examen d'imagerie médicale qui se trouve au centre du diagnostic pour beaucoup de maladies chez les femmes, parce que si je parle de l'échographie gynécologique, le diagnostic des maladies des organes génitaux de la femme, le suivi même de l'évolution du fœtus dans le sein de sa mère, nous le faisons grâce à l'échographie. Alors c'est un outil important que nous utilisons en gynécologie obstétrique, qu'il est nécessaire de pouvoir maîtriser ces examens, maîtriser l'interprétation des résultats pour améliorer la santé de la mère ainsi que du fœtus, parce qu'on peut découvrir trop tôt certaines maladies, commencer à les prendre en charge afin que l'issue soit heureuse lorsque la femme va arriver à terme et qu'elle va accoucher. Formation à court d'emploi est une obligation lorsqu'on travaille en médecine, parce qu'il y a des mises à jour. Même ceux qui ont déjà été formés, ils ont l'obligation de venir écouter encore de nouveau qu'est-ce qui a changé, quelles sont les nouveautés. Donc la théorie, ça serait à 10 jours, jour pour jour, de 9h juste à 16h, et la phase pratique prendra 2 mois. Il y a des examens à l'entrée, des examens à la sortie avant de remettre le certificat.
Actualité internationale.
L'Afrique de l'Ouest et du Centre vit une période de mutation du paysage de la drogue. C'est la conclusion du rapport régional pour l'année 2026 de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONUDC, présenté vendredi 26 juin à Dakar. La région UB, connue du trafic mondial, devient peu à peu une zone de production tandis que de nouvelles substances y gagnent du terrain.
L'invité.
Notre invité est le père Éric Mert. Il est le coordonnateur de 14 centres qui encadrent des centaines de jeunes en rupture familiale. Ces centres sont disséminés dans la ville de Lubumbashi et Kipushi. Il explique comment ces maisons prennent en charge ces enfants et révèle les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'encadrement des enfants. Père Éric Mert s'entretient avec Paulin Mounanga.
Père Éric Mert, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la mission de tous ces centres-là?
La première mission, c'est attirer les enfants qui vivent sur la rue vers notre centre Bakanjaville. Et à partir de là-bas, nous regardons ce que nous pouvons faire pour les enfants et éventuellement réintégrer dans leur famille ou bien les mettre dans un de nos programmes de scolarisation.
Et une fois que ces enfants sont accueillis dans vos centres, qu'est-ce qu'ils font exactement?
Premièrement, à Bakanjaville, nous commençons déjà l'alphabétisation. Après, nous avons le deuxième centre, c'est Bakanja Centre. Là, nous donnons le programme de l'école primaire. Après, nous donnons aussi la possibilité d'alphabétiser encore davantage. Ou ceux qui ont déjà été à l'école, on donne le programme scolaire rattrapage. Et une fois qu'ils sont sortis là-bas, il y a quatre centres professionnels, entre autres, donc Magone, où nous prenons ceux qui sont le moins intelligent. C'est ça le but de notre centre, donner à ceux qui sont moins intelligents quand même la possibilité de s'insérer plus tard dans la société, dans le monde du travail.
Les moins intelligents, alors les plus intelligents, qu'est-ce que vous en faites?
Donc il y en a qui vont à la Cité des Jeunes, un autre centre professionnel. Il y a deux fermes que nous avons, la ferme Jacaranda, la ferme Tchem Tchem, et il y a aussi la maison des jeunes. Ceux qui ont vraiment de bonnes performances à ce moment-là, nous essayons de les intégrer ou bien dans l'école technique Salama ou bien dans le collège Imara.
Est-ce que vous faites face souvent à des enfants qui fouillent les centres, qui retournent sur la rue?
Oui, ça arrive. Donc, surtout dans les deux premières étapes. Donc, ils sont de bonne volonté de quitter la rue, mais à un certain moment, ils rencontrent un ami qui vient se présenter aussi à Bakanjaville. Et donc, il dit, voilà, moi je vis encore toujours bien, il y a un papa qui nous donne chaque fois de la nourriture, toutes ces histoires-là, et donc ils repartent de nouveau dans la rue. Mais les portes restent ouvertes, donc ils peuvent fuir. Notre conversion personnelle n'est pas se fait en une fois, et donc nous croyons aussi que l'enfant, à un certain moment, il peut dire, voilà, je rentre quand même de nouveau dans le centre, et donc la porte reste ouverte. On ne les exclut pas, parce qu'ils ont pris la fuite. Ici, il y en a qui ont pris la fuite, ils ont été même en prison entre-temps, et donc ils reviennent de nouveau.
Quels sont les métiers que ces enfants apprennent ici sur place au centre Magone?
Ici, nous avons plusieurs possibilités, mais aussi nous avons des formations courtes. Le programme scolaire normal, il y a la soudure, la construction, coupe-couture, art, cordonnerie et agriculture. Même viserie, il n'y en a pas. Là, on est en train de réfléchir encore. Mais après, nous avons aussi des formations courtes comme esthétique. Donc ça, c'est 4 mois. Il y a pour les filles, apprendre à rouler avec des motos et entretenir les motos et la plomberie. Tout ça, ce sont 3 formations courtes.
Les filles aussi apprennent à conduire une moto?
Oui, on est en train de terminer avec le premier groupe. Au départ, ils étaient à 7. Maintenant, il y en a encore 3 qui sont restés. Mais donc, ils sont capables de rouler avec une moto, oui.
Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés?
Ah, ça, c'est une bonne question. Donc, question de donner chaque jour à ce grand gaillard la nourriture, pouvoir payer les professeurs, même si les externes doivent payer un peu de l'argent. Mais bon, il y a une série qui ne sait pas payer non plus, et donc c'est chaque fois chercher de l'argent chez les entreprises. On avait des entreprises qui nous soutenaient, mais qui ont changé de propriétaire, et donc c'est de nouveau recommencer à zéro. On a été même jusqu'au gouvernorat, on a parlé avec des ministres pour genre et femmes. permis, mais ils promettent, mais il n'y a rien qui arrive.
Qu'est-ce que vous gagnez en encadrant tous ces enfants-là dans vos différents centres?
Ce qui nous rend le plus heureux, ça c'est qu'on a vu, ça fait 20 ans que je suis occupé avec ces enfants, on les a vus sur la rue, mendier et prendre la colle et toutes ces histoires-là. Le plus qui nous rend heureux, ça c'est que ce garçon quitte la rue, il s'insère dans une entreprise et donc il commence à s'installer d'abord encore en famille, mais après il y en a qui se marient pratiquement une année après quand ils sortent de nos centres et qui sont heureux de ce qu'ils ont vécu.
Père Éric Merthe, je vous remercie.
Merci bien.
C'était notre invité, Père Éric Merthe, coordonnateur des centres qui encadrent des jeunes en rupture familiale qui s'entretenaient avec Paulin Munanga. Voilà qui met fin à cette édition du journal parlé de la mi-journée, coordonné et supervisé par Jean-Gandou Kabongo et mis en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.